France Inter.
Aujourd'hui, la faillite mondiale de l'eau, racontée par
Agnès Ducharne, hydrologue au CNRS.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
On croyait connaître la crise de l'eau, on pensait pouvoir en sortir, on parlait comme d'un épisode temporaire, comme d'un défi à relever avant qu'il ne soit trop tard. Mais ce temps est révolu. Aujourd'hui, le monde a officiellement basculé dans une ère que les scientifiques de l'ONU n'hésitent plus à appeler la faillite mondiale de l'eau. Ce terme désigne une nouvelle réalité planétaire dans laquelle l'humanité ne se contente plus de manquer d'eau par moment, mais est épuisée profondément, dégradée ou rendue irréversible des systèmes hydrologiques entiers, des rivières, des lacs, des nappes souterraines, des zones humides ou des glaciers. Comme un pays qui fait faillite parce qu'il dépense plus qu'il ne gagne, notre civilisation a consommé plus d'eau douce que les cycles naturels peuvent en renouveler, tout en puisant dans ses économies, ses gigantesques réserves naturelles, jusqu'à les réduire. Et les conséquences de cette situation se mesurent en chiffres dramatiques. Près de 75% de l'humanité vit dans des pays classés comme insécuritaires en eau. 4 milliards de personnes subissent une pénurie sévère d'eau au moins un mois par an, et des villes entières s'enfoncent parce que leurs réserves souterraines s'effondrent. Ce constat posé donc par les experts de l'Institut des Nations Unies pour l'eau, l'environnement et la santé est un signal d'alarme historique. Nous ne sommes plus au bord de la crise, nous sommes au cœur de la faillite mondiale de l'eau. Il invite à un réexamen radical de notre rapport à l'eau, non plus comme une ressource inépuisable, mais comme un capital naturel qu'il faut gérer avec lucidité et urgence, avant que les derniers comptes ne soient définitivement à zéro. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter.
Qui peut vivre sur cette planète sans boire ? Qui peut vivre sur cette planète sans avoir accès à de l'eau ? Personne.
La voix d'Aïssa Maïga, réalisatrice du film Marcher sur l'eau, qui était sorti en 2011. Agnès Ducharne, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Merci beaucoup d'être avec nous. Le 20 janvier dernier, donc, l'ONU, dans son rapport, employait des mots d'une gravité exceptionnelle, en parlant donc de faillite mondiale de l'eau, une formule qui suggère que nous avons donc collectivement dépassé les limites de renouvellement d'une ressource quand même vitale. Un tel constat aurait dû déclencher un choc politique et sociétal majeur. Or, le silence qui a suivi est presque assourdi. Comment vous, en tant que scientifique, expliquez-vous ce décalage entre l'ampleur de l'alerte et la faiblesse des réactions ?
Ce décalage, on l'observe dans le domaine de l'eau, mais dans tous les domaines qui touchent à l'environnement et au climat. Et j'ai un peu de mal à me l'expliquer, à vrai dire. Il s'agit d'enjeux vitaux. Et on a l'impression que le modèle de développement économique prime sur les enjeux vitaux de la population mondiale. C'est dommage. Et je suis tout à fait reconnaissante envers ces auteurs de ce rapport de faillite hydrique pour, avec une nouvelle terminologie et des exemples très abondants et très parlants, et j'invite les auditeurs à se procurer ce rapport vraiment, pour illustrer la problématique du dépassement des limites planétaires qui a déjà été établi scientifiquement, mais...
Ouais, vous dites c'est dommage, c'est plus que dommage quand même, non?
Oui, c'est plus que dommage.
Les mots qu'on peut employer pour qualifier ce qui se passe sont assez sidérants quand même, non?
Je pense que je suis un petit peu comme la grenouille qui est dans sa petite casserole d'eau qui devient tiède, puis chaude, puis de plus en plus chaude. On perd le pouvoir à s'indigner à force de voir tout le temps le même déni et l'impossibilité des gens qui décident à regarder les choses en face.
Est-ce qu'on est en train de banaliser l'impensable finalement aussi, d'une certaine manière ? C'est-à-dire imaginer qu'on manque d'eau sur l'ensemble de notre planète aujourd'hui.
Après, ça dépend quand même des pays. Hein. Il y a des gens qui sont encore plus directement concernés que les Français, bien sûr,
ouais,
même si le concept est valide en France.
Oui, absolument.
Mais oui, la banalisation du mal, c'est un concept qui est déjà assez ancien. Est-ce qu'on est dans le même registre ? J'espère que non. Mais en tout cas, il y a effectivement tout un J'ai l'impression qu'il y a une opposition entre des scientifiques, des gestionnaires de l'eau, des gestionnaires publics type agence de l'ONU, qui cherchent à faire valoir l'intérêt de la population, du plus grand nombre, en documentant ce qui se passe, et le GIEC de la même manière sur le climat. Et en même temps, il y a un autre récit qui essaye de faire croire qu'il n'y a pas de problème et surtout qu'il y a des solutions à tous les problèmes, des solutions souvent techniques. Et malheureusement, dans le domaine de l'eau, comme d'ailleurs dans le domaine du climat, c'est faux, en fait.
Donc ça veut dire qu'on s'approche d'un moment où il n'y aura plus de solution du tout ?
Alors, pour le climat, je pense qu'on arrive dans le dur et on ne sait pas refroidir le climat. Dans le domaine de l'eau, ça dépend des endroits. Une des caractéristiques du cycle de l'eau, c'est qu'il ne s'exprime pas du tout de la même manière sur la planète. Donc, il y a des régions qui sont bien pourvues en eau, il y en a d'autres qui ne sont pas du tout bien pourvues en eau. Il y a les eaux salées qui sont deux tiers de notre planète, les eaux piégées pour l'instant sous forme de glace, calottes groenlandaises, antarctiques, qui fondent, c'est l'eau des glaciers. Donc, bon, en tout cas, ce n'est pas du tout partout pareil. Et la difficulté locale à faire face au changement de l'eau, parce que des changements du cycle de l'eau régional, il y en a partout, mais ils s'expriment pas de la même manière. Et ça fait partie des difficultés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une solution à penser, mais plein.
En s'adaptant évidemment au local. Le rapport de l'ONU parle donc désormais de faillite mondiale de l'eau, c'est un terme frappant. Pourquoi est-ce qu'il faut abandonner les mots de crise ou de stress hydrique aujourd'hui pour employer un terme qui peut paraître très radical ?
Alors, ce qu'on entend généralement par stress hydrique, c'est le fait qu'on va consommer une bonne proportion de l'eau douce qui est amenée régulièrement par le cycle de l'eau régionale. Donc, le cycle de l'eau régionale, en d'autres termes, si on se place dans un territoire, l'eau douce est apportée par les précipitations, la pluie et la neige, et puis cette eau va s'infiltrer dans les sols, alimenter la transpiration des plantes, l'évaporation des sols. Donc il y a en gros, en moyenne sur la planète, et encore une fois, ce pourcentage est hétérogène, deux tiers des précipitations sur les continents qui vont être renvoyées rapidement, perdues en fait, de sa forme liquide et renvoyées sous forme vapeur dans l'atmosphère. Donc il nous reste un tiers de l'eau de pluie qui est liquide, qui est douce, et c'est utile pour tous les écosystèmes terrestres dont les populations humaines font partie. Et ce tiers d'eau liquide va s'écouler vers les rivières, vers les lacs, et aussi s'infiltrer vers les nappes phréatiques. Et donc c'est ça nos ressources en eau liquide, celles qu'on doit partager entre tous les êtres humains et avec tous les écosystèmes terrestres.
Mais ce terme de faillite là employé donc par l'ONU aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ça avait changé justement notre manière de regarder ce cycle de l'eau à l'échelle mondiale?
Oui, alors du coup, je reviens au stress hydrique. C'est quand les êtres humains pompent ou polluent une part importante des ressources qui sont amenées régulièrement par le cycle de l'eau. Après, par rapport à ça, il faut comprendre aussi que toutes les années ne sont pas identiques. Et donc, notamment, il y a des années sèches, des années humides. En ce moment, dans le sud-ouest, nos concitoyens voient bien qu'ils font face à un épisode humide.
Avec
mais pour autant,
majeures.
Ça ne les prémunit pas de peut-être avoir une sécheresse l'été prochain. Donc, on a des anomalies par rapport à la moyenne qui reviennent plus ou moins fréquemment. Et donc, les crises hydriques, ça va être quand... sur une situation de stress hydrique, on va rajouter une sécheresse. C'est ce qui s'est passé en 2022, par exemple, en France. Mais par contre, on peut avoir des usages de l'eau qui sont tellement excessifs par rapport à ce qui est ramené régulièrement par le cycle de l'eau, qu'on va créer une pénurie chronique. Et c'est ça qui amène progressivement, comme le dit ce rapport, à des situations qui deviennent totalement intenables.
C'est ça, il y a les points de non-retour finalement, quasiment.
Alors, non-retour, ça peut se discuter. Dans le cycle de l'eau, parfois, il suffit d'arrêter de pomper et puis on a une possibilité de retour. Mais en tout cas, ça ne va pas être immédiat. Et puis, Et puis voilà.
Est-ce que ce phénomène justement de faillite là, de l'eau à l'échelle mondiale, c'est un processus qui est récent ou au contraire qui est engagé depuis longtemps sans qu'on en ait pris justement la mesure exacte ?
Comme toutes les dégradations environnementales, c'est un phénomène qui se développe massivement depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec tout le développement de l'économie industrielle, de l'agriculture industrielle aussi. Parce que dans le domaine de l'eau, il faut savoir que 70% de l'eau qui est pompée dans ces ressources en eau douce continentale,
c'est
pour alimenter l'agriculture. Donc à la fois l'irrigation et l'abreuvage du bétail.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un modèle agricole qui est incompatible avec la ressource en eau ?
Dans énormément de régions du monde, oui.
La production d'énergie et l'industrie jouent aussi des rôles importants sur cette pression hydrique permanente, là ?
Oui, bien sûr. Et ça aussi, ça dépend des endroits. Hein, la population aussi. C'est-à-dire que quand on développe une énorme agglomération, ça, c'est vraiment un point très important au cours des dernières décennies. Des énormes conurbations se sont développées.
Conurbations ?
Oui, les villes qui se développent au point de grignoter les voisines. Bien. Et donc, ça fait une densité de population énorme dans des bassins versants, dont eux, l'apport par le climat ne change pas. Donc les ressources en eau ne changent pas. Les besoins pour la population locale explosent tout au même endroit, ce qui fait que quand on pompe tout au même endroit. Et là, les niveaux des nappes, les niveaux des rivières s'effondrent. Et par ailleurs, ces populations, il faut les alimenter en nourriture. Et puis, il y a des tas d'activités qui sont générées avec ces grandes villes, dont des activités industrielles. Donc, il y a une densification des pressions sur l'eau, et c'est un énorme problème.
Agnès Ducharne, on va partir au Kazakhstan avec un exemple, celui de la mer Caspienne. C'était l'objet d'un documentaire de France 24 l'année dernière.
Voilà mon village, Zambay, là où je suis né, là où j'ai grandi. À ma gauche, c'est la mer Caspienne. Avant, elle venait tout contre la digue.
Aitkali Kwanishkaliyev a passé les premières années de sa vie à nager et pêcher dans des eaux aujourd'hui disparues, remplacées en quelques décennies par une étendue aride à perte de vue.
On voit que la mer s'est retirée de 25 km environ.
En moins de 20 ans, la mer Caspienne s'est évaporée sur 30 000 km², près de 10% de sa surface.
30 000 km², l'exemple du Kazakhstan. On aurait pu prendre l'exemple de la mer d'Aral, hein, que beaucoup de gens connaissent, qui est une sorte de laboratoire tragique, hein, d'ailleurs, de cette faillite mondiale de l'eau. Est-ce qu'on peut trouver des situations comparables en Europe aujourd'hui, Agnès Ducharne ?
Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de mers fermées en Europe. La singularité de ces mers d'Aral et Caspienne, c'est que c'est des mers fermées, donc des très grands lacs finalement. Ce qui fait qu'on a vraiment l'eau de ces mers, c'est principalement apportée par les rivières, plus encore que par la pluie. La plupart des fleuves d'Europe coulent dans de grands océans, et on ne peut pas voir la même chose. Un équivalent, c'est sans doute que les rivières, le régime des rivières est en train de changer de plus en plus.
Avec des rivières quoi, qui baissent par exemple ?
Alors, il y a deux grands types de rivières dans le monde. Les rivières qui coulent tout le temps, qu'on appelle les rivières pérennes, et les rivières intermittentes. Donc elles ne coulent pas tout le temps. Et ces rivières intermittentes se retrouvent surtout sous des climats semi-arides à arides. Mais dans le sud de la France, en Provence, on a des cours d'eau intermittents. C'est des petits cours d'eau, ils sont mal connus, mais enfin, ils existent de manière importante. Et ce qu'on constate depuis une vingtaine d'années en France, depuis qu'il y a des mesures, le nombre de cours d'eau intermittents augmente. Et c'est vrai ailleurs que dans le sud de la France, c'est vrai dans tout le pourtour méditerranéen. Et par ailleurs, il y a aussi des beaucoup plus grosses rivières pérennes qui se mettent à ne plus couler. Et donc, c'était en 2022, il y a eu plein d'exemples, en fait. La Loire coulait à peine, la Tamise ne coulait plus à son par endroit. Le Rhin avait des niveaux si bas qu'on ne pouvait plus naviguer dessus. Et puis après, en dehors de l'Europe, on a le Nil, le Colorado, le fleuve Jaune. Il y a toute une pléiade d'énormes cours d'eau qui ne coulent plus à leur exutoire.
Donc des changements en cours, hein, qui sont déjà très visibles. À quoi pourrait ressembler un monde qui vit déjà donc en déficit hydrique? C'est ce qu'on verra dans un instant avec vous, Agnès Ducharne. Et puis vous répondrez également aux messages et aux questions sur cette thématique de la faillite mondiale de l'eau avec les messages sur franceinter.fr et la page de La Terre au Carré.
France Inter. Mathieu Vidard. La Terre au Carré.
Et vous savez ce qui va se passer? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera.
Voilà, ça c'est une archive de l'INA en 1974, le candidat écologiste René Dumont lors de la campagne électorale officielle pour la présidentielle, Agnès Ducharne. Vous la connaissez par cœur, je crois, cette archive. Hein.
Oui, même si j'étais un peu jeune pour le voir.
Mais on l'a tellement vu depuis. Hein. Voilà, c'était il y a plus de 50 ans. Il avait raison, René Dumont, d'alerter. Hein.
Tout à fait.
Ça n'a pas eu beaucoup d'effet, mais l'image de son verre d'eau, en tout cas, a marqué les esprits, hein, c'est ça.
Des petites choses ont été dans le bon sens, hein. Ouais. C'est comme pour le climat, mais insuffisante au total.
Vous qui êtes climatologue et hydrologue, on parle avec vous de la faillite mondiale de l'eau. Dans le rapport de l'ONU dont on parlait, hein, qui est sorti le 20 janvier dernier, les auteurs de ce rapport utilisent l'analogie financière en parlant de revenus, d'épargne, de dette. Est-ce que cette comparaison vous paraît scientifiquement pertinente, vous, ou pas?
Bah, tout à fait, puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent mieux l'économie écologie, donc.
Ouais. Faut aller sur le même terrain.
Et donc on a parlé du cycle de l'eau. Le cycle de l'eau, en fait, il amène le salaire hydrique d'une région, d'un bassin versant. Et puis donc on peut utiliser notre salaire pour acheter des choses, pour faire pousser, pour fabriquer, pour boire. Et des fois on a envie d'un peu plus. Donc ou alors le climat est plus sec. Donc on va taper dans nos économies, dans notre livret A, ou demander un petit prêt à notre banquier et qui va nous l'accorder. Et ce qui, dans le cycle de l'eau, est l'analogue du banquier, ça va être les nappes phréatiques, ça va être les glaciers, ça va être les zones humides. Mais la nature, comme le banquier, a ses limites. Et si on continue d'être trop dépensier et de devenir insolvable, ça s'arrête. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle dans des tas d'endroits de la planète.
Et donc, on rentre dans une logique de faillite.
De faillite.
Hein, c'est exactement ça dont
il s'agit. Il faut diminuer les dépenses, je crois, quand on est en faillite.
Voilà, la climatologue qui nous parle économie pour essayer, voilà, dans cet océan, on rame beaucoup, de toucher le grand public sur ces questions. Si on regarde justement Agnès Ducharne, la planète aujourd'hui, quels sont les signes les plus visibles de cette faillite hydrique mondiale?
On a parlé des cours d'eau qui s'assèchent, au moins temporairement, qui font diminuer les mers intérieures ou les lacs. Les zones humides s'assèchent aussi largement. Et donc le rapport indique qu'il y a la surface de l'Union européenne, l'équivalent de la surface de l'Union européenne, de zones humides qui, au total, sur l'ensemble des continents, s'est asséchée depuis 50 ans. C'est des milieux qui sont très importants en termes de biodiversité, en termes de stock en eau, qui sont difficiles aussi à
cartographier
précisément. Donc voilà. Mais l'ordre de grandeur, et là, ça fait aucun doute. Mm-hmm. Un autre signe de cette faillite hydrique, c'est le fait que les nappes phréatiques, les eaux souterraines, leur niveau diminue. Et là encore, les chiffres qui sont contemporains sont édifiants. C'est-à-dire que 70% des grands aquifères, des grandes nappes souterraines du monde montrent des tendances long terme à la baisse. 70%. Mmh. Et c'est pas parce que le climat change principalement, c'est parce qu'on tape trop dedans. Ouais. C'est vraiment qu'on pompe trop, et c'est un élément majeur. Et quand les nappes phréatiques baissent, quand leur niveau baisse, ça veut dire qu'elles vont moins bien alimenter les rivières, parce que l'eau des nappes phréatiques, c'est pas de l'eau qui est statique et piégée sous terre, c'est de l'eau qui coule doucement vers les océans et surtout vers les rivières, et donc la baisse des nappes phréatiques contribue à assécher les rivières.
Alors justement, une petite aparté là sur cette question des nappes phréatiques, Agnès Ducharne, quand on voit justement les grands épisodes de sécheresse en France, on est toujours frappé par la baisse justement de ces nappes phréatiques, très inquiétante, mais en même temps, quand on vit comme en ce moment des épisodes pluvieux extrêmes, est-ce que là, on a une recharge aussi de ces nappes phréatiques, ou de toute façon, on enregistre quand même des niveaux anormalement bas?
Alors, c'est vrai que là, ça peut paraître paradoxal de parler de faillite hydrique, surtout axée sécheresse, au moment où il y a ces inondations dans tout le sud de l'Europe. Les nappes phréatiques, elles ont un fonctionnement saisonnier. Mmh. Et donc, leur niveau moyen, il est la résultante d'un remplissage en saison humide. En France métropolitaine, c'est l'hiver, et c'est ce qui se passe en ce moment. Et dans le sud-ouest, certes, là, ils ont trop d'eau, mais en même temps, les nappes se rechargent. Et ça, c'est une bonne chose.
Il y a au moins cet aspect-là qui est positif.
Pour la protection, pour la résilience été. Mmh. Et puis, pendant l'été, au contraire, l'évaporation domine les précipitations, les plantes pompent dans les sols et sont alimentées aussi par les nappes, et du coup les niveaux des nappes baissent, mais tout en baissant alimentent les rivières, et c'est parce qu'on a une bonne recharge des nappes qu'on va avoir en été de l'eau en quantité suffisante quand il ne pleut pas. Ouais. Donc c'est vraiment un cycle, et cette circulation d'eau qui est très importante.
Donc au moins, on peut au moins se réjouir là-dessus en ce moment ?
Ah oui, c'est le point positif de l'histoire.
Voilà. Malgré évidemment tout ce que ces inondations entraînent aujourd'hui sur l'ensemble du territoire, enfin dans certaines régions en particulier. D'autres effets justement de cette faillite hydrique, parce que là on parle effectivement des rivières, on vient de parler des nappes, est-ce qu'il
Alors,
y a d'autres effets visibles ?
Dans votre introduction, vous parliez de la subsidence.
Oui.
Et ça, c'est vraiment lié au fait de surpomper les nappes. Et je pense qu'une bonne analogie, c'est d'imaginer une bouteille d'eau en plastique. Quand elle est pleine d'eau, on peut appuyer dessus et elle garde sa forme. Si on la vide, cette bouteille d'eau, et qu'on appuie, elle s'effondre. Et c'est ce qui se passe dans les roches qui sont gorgées d'eau, qu'on appelle les aquifères. Étymologiquement, ça veut dire qu'elles peuvent contenir de l'eau. Et quand on prend l'eau qui est contenue dans les pores de la roche, à ce moment-là, la structure solide devient beaucoup plus fragile et va s'effondrer sous le poids des couches de roche au-dessus. Mmh. Et ça peut, c'est très fréquent en fait dans tous les endroits où on pompe beaucoup et en profondeur. Ça a commencé en Californie, ce genre de situation, ça fait plus de 150 ans.
Autour de quelle pratique alors par exemple ? Est-ce qu'il y a des secteurs qui justement provoquent ce type de situation ?
C'est principalement pour l'agriculture.
Pour l'agriculture, oui.
Et dans le rapport, donc, il y a une carte que là j'ai sous les yeux, et donc les zones de subsidence, c'est principalement l'Ouest américain et la Californie, le Mexique, l'Espagne du Sud, l'Andalousie, le Moyen-Orient, et puis les zones très irriguées de Chine du Nord.
Donc cette eau qui devient structurellement insuffisante dans de très nombreuses régions. Agnès Ducharne, d'autres effets visibles ?
Un autre élément qui est très important de souligner, c'est que quand on est dans ces situations-là, les stocks artificiels aussi se vident.
Qu'est-ce que vous appelez stocks artificiels ?
Les stocks artificiels.
Les méga-bassines,
jusque-là, j'ai parlé de stocks naturels, les glaciers, les nappes, les zones humides, les sols. C'est toutes les toutes les infrastructures qu'on va construire pour stocker de l'eau temporairement.
Oui, comme les méga-bassines.
Les méga-bassines, c'est des toutes petites. Mais ce qu'on voit très massivement, c'est des beaucoup plus gros réservoirs qui sont créés à l'amont de barrages.
Ouais.
Et donc, il y a ça en Espagne. Dans tous les endroits que je viens de citer, vous voyez ça, en plus des pompages dans les eaux souterraines.
Et là aussi, ça baisse.
Et l'auteur du rapport Faillite hydrique, c'est un Iranien. Et c'est pas un hasard, je crois. Il y a beaucoup d'hydrologues iraniens, très bons. Beaucoup sont expatriés, pour des raisons qu'on peut comprendre, mais le cas iranien, je trouve, mérite d'être brièvement raconté. Il y a, pour les gens qui ont suivi les informations, les actualités, il y a quelques mois, fin 2025, on entendait dire que le gouvernement iranien envisageait de déplacer toute la population de Téhéran, faute de suffisamment d'eau, suite à une sécheresse très longue, et à la fois les sols, les lacs et les réservoirs artificiels étaient très très bas. Et donc, ils n'étaient pas sûrs de pouvoir alimenter leur population. Et par ailleurs, il y avait des défauts de production agricole, évidemment. Deux mois après, les pluies étaient revenues partiellement. Ça n'a pas suffi pour l'instant à re-remplir ces très très grands réservoirs. Mais il y a eu des soulèvements au bazar de Téhéran pour des téléphones. Mais il y avait aussi des problèmes de biens agricoles qui étaient devenus très chers. Et je suis persuadée qu'il y a un lien très fort entre ces épisodes de sécheresse chronique longue typiques des faillites hydriques et les mouvements iraniens qui sont réprimés dans le sang en ce moment.
Agnès Ducharne, l'eau qui disparaît de nos robinets, c'est déjà une réalité dans certaines régions de France. On va écouter ce reportage de la RTBF. C'était en 2024 dans un village de l'Aude.
L'été bouscule les habitudes dans les familles de ce petit village de l'Aude. Pas question de procrastiner en début de journée. Pour profiter de l'eau, il faut s'activer jusqu'au déjeuner.
Il faut manger en fonction de l'eau. Bon, c'est une question d'organisation, mais en même temps, quand ça dure, effectivement, il faut que chacun y mette du sien.
À partir de 14h et jusqu'à 6h le lendemain, plus d'eau au robinet.
Ouais, là, c'est fini.
C'est la troisième fois en 4 ans que le village fait face au manque d'eau. La sécheresse et le niveau bas des nappes phréatiques forcent les autorités à imposer des restrictions. Conséquence, il faut s'organiser et anticiper.
Exemple donc en août 2024 dans un village de l'Aude, Agnès Ducharne. Qu'est-ce que ça nous raconte, ce type de reportage-là exactement? Quand vous entendez ça, vous vous dites quoi?
Ça nous raconte notre vulnérabilité. En France, donc, on bénéficie d'un climat qui est plutôt favorable d'un point de vue de l'eau, de l'apport en eau. Le sud est un petit peu plus vulnérable d'un point de vue climatique, mais on s'est adapté finalement. Nos sociétés sont adaptées à notre climat. Mais par contre, à la fois les demandes de plus en plus importantes en eau par tout ce qu'on fait, la manière dont on occupe nos territoires et le changement climatique qui en rajoute une couche, et c'est pas fini, ça va être de pire en pire du point de vue du changement climatique qui diminue l'eau quand il y en a peu et qui l'augmente quand il y en a beaucoup, et c'est ce qu'on voit dans le sud-ouest en ce moment, en fait, et dans tout l'ouest. Donc ça amène tout système, même les mieux conçus, même les plus techniques, à leurs limites. Et c'est ce qui se passe dans l'Aude. En 2022, c'était plusieurs centaines de communes en France qui n'avaient plus d'eau au robinet, d'eau potable en tout cas, et qui ont dû être approvisionnées par camion, etc. Et dans le monde, si on regarde dans le monde entier, le fait d'avoir de l'eau 24 heures sur 24 au robinet, c'est une exception,
Fait. Il y a des milliards de personnes qui n'en ont pas,
Il y a beaucoup d'urbains qui ont de l'eau au robinet, mais pas toute la journée, exactement comme les gens de l'Aude. Et puis, il y a tous les gens qui n'ont pas d'eau au robinet, qui n'ont pas
Donc, il faut écouter les signaux quand même et s'habituer peut-être à ce type de situation qui pourrait se généraliser à l'ensemble du territoire, en tout cas de la France métropolitaine, parce qu'on n'a pas du tout l'habitude.
Ah ben non, on n'a pas l'habitude. Et puis, il faut quand même aussi en profiter pour parler des Outre-mer. À Mayotte, c'est catastrophique.
C'est une réalité quotidienne. Sur des laps de temps aussi courts. Ou pendant des journées entières.
Voilà.
On se retrouve dans un instant, Agnès Ducharne. On va voir si cet effondrement est évitable et qu'est-ce qu'il faudrait changer pour éviter cette banqueroute définitive de l'eau. Et puis, vous répondrez aux messages et aux questions qui arrivent pour vous sur franceinter.fr. Également, vos messages vocaux. Pour vous entendre directement, il vous suffit d'aller enregistrer vos messages pour la Terre au carré sur l'application Radio France.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Ne tombez pas, mes amis, dans la dépendance à l'eau. Elle fera de vous des esclaves et vous lui reprocherez qu'elle vous manque.
À cause de la terre,
on a dû partir.
On n'avait plus d'eau, alors.
L'eau était infecte.
C'était du poison, de la pourriture.
Et puis il y a eu les corbeaux.
On ne pouvait plus rien planter.
Où sont les autres?
Quels autres?
Les innombrables mers.
Il n'y a plus que nous.
Voilà, Mad Max Furiosa, c'était en 2024 de Georges Miller. Un extrait pour méditer peut-être sur notre rapport à l'eau. Agnès Ducharne, vous qui êtes notre invitée, hydrologue et climatologue au CNRS. On parle donc avec vous de la faillite mondiale de l'eau. Ce terme employé donc dans un rapport de l'ONU qui est sorti le 20 janvier dernier et que vous pouvez d'ailleurs consulter. Il est très lisible pour le grand public si vous souhaitez en savoir plus sur cette situation à l'échelle de la planète. Justement, ce mot faillite, est-ce qu'il va changer fondamentalement, à votre avis, la façon dont les États gouvernent l'eau actuellement par rapport à une simple gestion de crise ?
J'ai bien peur que non, que ça ne suffise pas, parce que c'est juste de nouveaux mots dans une vieille casserole. Mmh. Voilà. Mais quand on est dans la position dans laquelle je suis, on espère toujours que les nouveaux mots vont faire... une petite lueur de compréhension entre les bonnes oreilles.
Ouais, sans trop d'illusions, malheureusement. Est-ce qu'il faudrait hiérarchiser les usages justement de l'eau et arbitrer politiquement entre les besoins vitaux et puis les activités économiques ? En fait, comment il faudrait faire ? C'est quoi la bonne politique aujourd'hui selon vous ?
En fait, si on revient sur l'histoire des lois sur l'eau en France... On pourrait se dire qu'on est dans un pays où on devrait être bien armé face à ça.
Parce que des lois, il y en a.
Oui, donc la gestion par grand bassin versant depuis 1964, une loi sur l'eau en 1992 qui avait comme objectif d'assurer une gestion équilibrée de l'eau au bénéfice de tous les usages et en priorisant, en fait, depuis 1992, l'alimentation en eau potable de tous nos concitoyens et puis la sécurité civile, donc le fait qu'il y ait toujours de l'eau pour lutter contre les incendies.
Avant les activités économiques ?
Avant les activités économiques. Et c'est ce précepte qui fait que de plus en plus, chaque été, il y a des arrêtés préfectoraux qui interdisent certains usages de l'eau, qui étaient massifs en 2022. Il y avait 93 départements sur 96 qui étaient touchés par des arrêtés totaux, sauf des arrêtés de prélèvement qui touchaient tous les secteurs, sauf eau potable et sécurité civile. Mais ça ne suffit pas, parce que ça, c'est de la gestion de crise. Et pour gérer la faillite, il ne faut pas se limiter à la gestion de crise, il faut faire de la gestion préventive, et elle ne suffit pas en France, même si elle existe.
Est-ce qu'on peut concilier, à votre avis, le développement économique et la sobriété hydrique ? Parce que c'est bien ça dont il s'agit, on n'a pas encore prononcé le mot aujourd'hui, mais enfin...
Un développement croissant, et la sobriété hydrique, je pense que non, en fait. Dans tous les endroits du monde, c'est à peu près la moitié... qui sont dans ce rapport reconnus comme en faillite hydrique, on ne peut pas prendre plus d'eau pour faire plus d'activités économiques. C'est l'inverse qu'il faudrait faire. Il faudrait faire moins d'activités économiques pour rendre de l'eau au système. Ouais. Et en France, il y a un tiers de la... C'est quand même quelque chose qui mérite d'être dit sur votre antenne. En France, un tiers du territoire métropolitain bénéficie d'une appellation administrative très moche qui s'appelle zone de répartition en eau. Et zone de répartition en eau, c'est un classement administratif qui dit qu'il y a un déséquilibre durablement installé entre la ressource en eau douce et les prélèvements existants.
Et après ?
Et après, alors... Dans ces zones-là sont censées être mises en place des modalités de la gestion de l'eau avec de la concertation entre acteurs, etc., au bénéfice pour rétablir l'équilibre. Mais ce système existe depuis 1994 et en fait, c'est toujours la même surface qui est concernée. Ça n'a pas changé.
Agnès Ducharme, avant de passer aux questions des auditeurs et auditrices, parce qu'elles sont nombreuses, un mot sur la privatisation, la marchandisation de l'eau aujourd'hui. Est-ce que ça aussi, ça peut nuire gravement à cette ressource ?
Tout à fait. Et quand on parle de développement économique plutôt que développement hydrique, c'est ça dont il est question, en fait, soyons clairs. Donc, il y a plusieurs... grands secteurs qui directement valorisent l'eau en espèces sonnantes et trébuchantes. Le premier, c'est la mise en bouteille d'eau minérale. Et on pense au scandale Nestlé l'année dernière, mais il y a aussi une faillite hydrique régionale dans la région de Contrex et Vittel, et puis vers Volvic.
Et ça, c'est la France, parce qu'à l'échelle mondiale, la privatisation de l'eau, ça fonctionne déjà à fond les ballons dans plein de pays.
Et donc là, on laisse des industriels prendre l'eau, la vendre dans les aéroports du monde entier. Et c'est notre patrimoine naturel qui est éparpillé de cette manière. Et puis, il y a aussi toute les bénéfices qui sont basés sur l'agro-industrie. Mm-hmm. Donc, élevage industriel à base de maïs, etc., dans les marchés mondiaux. Mais derrière l'agro-industrie, il y a aussi la méthanisation, les biocarburants.
Allez, on passe aux questions. Allez, beaucoup de questions, donc réponse courte, Agnès D'accord. Ducharne. Gilles nous demande quels sont les pays qui gèrent le mieux leur capital hydrique aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des bons élèves ?
Je crois que non, en fait. Tous les pays sont en train de réaliser, par rapport à l'eau, que l'Anthropocène, les grands changements climatiques et humains, la grande accélération les prend de plein fouet. Et la plupart des pays résonnent encore avec les idées du XXe siècle. C'est le XXe siècle qui est malheureusement en cours.
Florence demande, quand on étudie l'eau, son cycle, ses ressources, etc., on comprend qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Est-ce qu'il ne faudrait pas former nos dirigeants, les préfets, les mairies, les ministres de l'agriculture et de l'économie ?
Il faudrait. Et je crois qu'ils le sont partiellement. En tout cas, les grandes administrations publiques et les ministères le sont. Mais la question qu'on peut se poser, c'est quand on les forme et quand on voit ce que ça donne, est-ce qu'ils comprennent bien ce qu'on leur raconte ? Ou bien est-ce qu'ils font exprès de ne pas comprendre ?
Voilà. Les deux sont possibles.
Les deux sont possibles.
Florence demande, est-ce que des solutions comme le recyclage de l'eau pour les usages domestiques ne devraient pas être obligatoires dans les nouveaux logements ? Même question de Jean-Pierre, comment expliquer que nous continuons, par exemple, à utiliser de l'eau potable pour nos WC ?
Bon, c'est une bonne question. Et c'est vrai qu'en termes d'usage domestique, les WC, c'est une part non négligeable. C'est très difficile à mettre. Ça ne peut se faire que dans les nouveaux logements et c'est des choses qui sont qui existent. Il y a des plans, il y a des nouveaux quartiers où ces choses sont faites. Ouais. La séparation à la source. Mais ça reste encore très très marginal.
Agnès Ducharne, une question vocale pour vous, c'est Emmanuel.
Bonjour France Inter, c'est Emmanuel. Je serais assez curieuse d'avoir l'avis de votre invité sur l'utilisation intempestive de l'IA en ce moment. Sachant que moi j'ai l'impression que tous les gens autour de moi demandent tout et n'importe quoi à ChatGPT et n'ont absolument pas du tout conscience de la catastrophe en eau que cela peut représenter.
Merci Emmanuel pour votre question. Même message de David qui aimerait savoir comment s'intègre le grand projet d'Emmanuel Macron de développement en France des data centers vis-à-vis de cette question en eau.
Alors, c'est plutôt les data centers le problème que l'IA. C'est-à-dire, l'IA, c'est via les data centers que ça va consommer de l'eau.
C'est tout à fait lié.
Hein. Et donc, c'est gros. C'est gros stockage de disques durs,
de
ça
données,
chauffe
ouais.
énormément, donc ça doit être refroidi. Et c'est refroidi à l'eau et donc il en faut beaucoup. C'est la même problématique que le nucléaire pour faire de l'électricité,
donc,
qui
plans,
est l'autre entrée des
ça,
data
mais,
centers.
C'est ça, mais ce gros plan justement autour de l'intelligence artificielle, quand on voit la situation de faillite mondiale de l'eau,
me semble complètement déplacé.
On devrait mesurer un peu les choses quand même, c'est ça.
On parlait tout à l'heure de prioriser les usages. Il ne faut pas oublier que les gens doivent boire et manger quand même.
Yann demande, ma question va vous sembler stupide, mais la quantité d'eau sur Terre et dans l'atmosphère est-elle toujours constante ? Et si oui, est-ce qu'on peut parler de problème de répartition plutôt que d'assèchement généralisé ?
Alors, la quantité d'eau totale sur la planète, ça fait 3 milliards d'années à peu près qu'elle est inchangée. Mais ce qui change, c'est les volumes qui sont disponibles sous forme vapeur dans l'atmosphère, sous forme solide dans les calottes et les glaciers, et sous forme liquide, eau salée et eau douce. Et donc là, ce dont on parle, c'est l'eau douce, c'est une infime partie du total. Et donc, à la fois, il y a des problèmes de répartition. Si on compare l'Amazonie, le Sahara, on voit bien que c'est pas les mêmes conditions de gestion de l'eau. Et par ailleurs, dans beaucoup d'endroits, il y a une diminution chronique parce qu'on pompe trop. Et c'est ça à quoi renvoie la faillite hydrique.
On va écouter un nouveau message vocal pour vous, Agnès Ducharne.
Daniel, Clermont-Ferrand. Je me demandais comment les centrales atomiques, si l'eau se raréfie, si les fleuves deviennent intermittents, comment pourront-elles être refroidies ?
Eh oui, ça c'est un des gros problèmes quand même.
C'est une excellente question, c'est la même que les data centers. Hein. Et par exemple, il y a une centrale nucléaire à la Mont-de-Paris, sur la Seine, là où elle a un tout petit débit. Je trouve un peu inquiétant qu'on songe à doubler. Il y a des projets hein, pour développer, mettre plus de cœur à nos gens sur Seine, de cœur nucléaire. La rivière n'est pas capable de refroidir cette usine.
Allez, un dernier message sur l'agriculture, tout de suite en message vocal.
Bonjour, La Terre au Carré. Merci pour cette émission sur l'eau. Est-ce qu'on a une idée de la consommation en eau douce de l'agriculture biologique par rapport à l'agriculture conventionnelle? Est-ce qu'on a une idée de la consommation liée à l'élevage, et notamment industriel?
Et tout ça en 15 secondes, Agnès Ducharne, pour répondre à ce message.
Alors en France, l'élevage, c'est à peu près 20% par rapport à l'irrigation des cultures. Mmh. Et je pense que le bio, par rapport au conventionnel sur le même type de culture, c'est à peu près équivalent. C'est pas là que ça se joue, la différence entre le bio et le conventionnel, c'est sur les pesticides et les engrais.
Merci beaucoup en tout cas d'être venu pour évoquer donc cette faillite mondiale de l'eau à la suite de la publication de ce rapport de l'ONU. Merci beaucoup Agnès Ducharne, merci aussi également à Lucie Sarfati qui a préparé ce dossier, Fabrice Desmaz à la technique et Jérôme Boulet qui réalisait cette émission.